France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Du pain au café, notre alimentation et de ce fait nos assiettes du quotidien ont des impacts sur la planète et l'environnement au-delà de notre seule santé. Quels sont ces effets et quelles en sont les conséquences? Existe-t-il des alternatives, des solutions? À travers le podcast de Deux Causes à Effet intitulé « De l'assiette à la planète, comment manger pour le futur », nous allons voyager dans nos assiettes chaque mois avec des experts, des acteurs de terrain mais aussi des chefs engagés. Aujourd'hui avec Manon Dugré, ingénieur agronome pendant 10 ans à AgroParisTech et chef en restauration, co-auteur du livre « Je mange pour le futur » édité chez Ulmer, et avec Nicolas Bricasse, chercheur en socio-économie de l'alimentation au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il est aussi co-directeur du livre « Une écologie de l'alimentation » paru chez Quae. Et bien avec tous les deux, nous ferons tout d'abord un état des lieux des conséquences de l'alimentation humaine sur la santé planétaire, sur les écosystèmes, les territoires et le climat. Puis en seconde partie, nous commencerons notre voyage dans nos assiettes avec l'élément de base, celui qui arrive sur la table généralement en premier, le pain. Et nous serons avec Roland Feuillas, ancien ingénieur informaticien, devenu meunier, boulanger, paysan et formateur. Il est co-auteur du livre « À la recherche du blé vivant » paru chez Actes Sud. Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission coordonnée par Célestine Babinet, avec pour collaboration Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Anne Delaveau de l'INA et l'équipe de documentation de Radio France. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, Nicolas Leroulé.
Il n'y a aucun oiseau de la plaine, c'est-à-dire qu'on n'entend pas d'alouette, on n'entend pas de bruant. Il manque vraiment ici une grosse partie des oiseaux qu'on devrait retrouver normalement dans une plaine agricole.
Les pesticides et les engrais ont décimé les insectes et donc le garde-manger des oiseaux. Selon une étude du CNRS, en 40 ans, un oiseau sur quatre a disparu en Europe.
Ce sont des fermes géantes, des hangars qui abritent des milliers d'animaux. En France, 60% de ces animaux sont concentrés dans 3% des élevages.
Le lisier, comment faire que la nature qui vit autour de nous puisse absorber de telles quantités de merde?
La façon de produire les aliments et ce que nous mangeons contribue à la perte des écosystèmes naturels et au déclin de la biodiversité.
Bonjour Nicolas Bricasse.
Bonjour.
Je précise que vous êtes donc spécialiste des systèmes alimentaires au CIRAD et à vos côtés Manon Dugré. Bonjour Manon.
Bonjour.
Vous avez co-coordonné la chaire ANCA à AgroParisTech, la chaire alimentation, nutrition, comportement alimentaire. Et à la fin de chaque émission, vous nous partagerez un conseil et une recette facile selon le thème du jour. Une recette soit de votre composition, soit en association avec un autre chef emblématique, il faut le préciser. Recette à retrouver sur le site de l'émission. Manger est un besoin vital, Nicolas Bricasse, une source de plaisir et de convivialité. Mais cet acte peut être dévastateur pour la planète et l'environnement. Nous venons d'entendre un florilège. En quoi le tableau est-il si sombre?
En fait, c'est pas tant manger qui pose problème, c'est la façon dont on produit, transforme, commercialise. Et ce sont effectivement nos régimes alimentaires, c'est-à-dire la nature des produits qu'on consomme et leur quantité. On a eu, après la Seconde Guerre mondiale, un modèle qu'on appelle le modèle industriel, qui s'est développé sur l'agriculture et l'alimentation, qui utilise massivement des ressources non renouvelables. Les ressources énergétiques, le pétrole, le gaz, l'uranium, maintenant les terres rares, mais aussi des ressources fertilisantes. Pour fertiliser, pour nourrir les plantes, on va chercher dans les mines de phosphate, notamment au Maroc, dans les mines de potasse, au Canada ou ailleurs, on va chercher de quoi nourrir les plantes. Donc, premier grand problème environnemental, c'est qu'on épuise des ressources non renouvelables, mais on surexploite aussi des ressources, elles, renouvelables. Je pense à la forêt, à l'eau, aux ressources halieutiques, les poissons, on en prélève plus vite que leur capacité de renouvellement. Premier grand type de problème. Deuxième grand type de problème, que je distingue de l'épuisement ou de la surexploitation des ressources, c'est l'effondrement de la biodiversité. Je ne considère pas la biodiversité, le vivant, comme une ressource. Le vivant, la terre est peuplée de vivants, sauf que nos modèles de production agricole, le fait qu'on ait considérablement étendu les surfaces, supprimé les haies, utilisé beaucoup de pesticides pour se protéger de maladies, font qu'on a un effondrement de la biodiversité qui menace purement et simplement la capacité de continuer de produire autant qu'on produit aujourd'hui à moyen terme. Et on voit déjà des baisses de rendement qui sont liées à cet effondrement. Et troisième grand type de problème, c'est ce que j'appellerais la saturation des milieux. D'une part, on émet beaucoup de gaz à effet de serre dans le système agricole et alimentaire. Et d'autre part, on pollue avec de l'azote, on pollue avec des résidus chimiques, que ce soit de pesticides ou que ce soit de plastique. Et en fait, par là aussi, on contribue à détruire la biodiversité. Et donc là aussi, on menace en fait la capacité de continuer à se nourrir correctement, à produire suffisamment de nourriture pour nous nourrir.
Et donc pollution non seulement des terres, donc des sols, mais aussi de fait des nappes phréatiques, des océans, et tout cela arrive aussi dans nos assiettes.
Absolument. Trop de pollution azotée ou trop de pollution aux engrais, ça part dans les rivières, ça part dans la mer. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, l'envahissement des milieux aquatiques par les algues. Les algues vertes en Bretagne, les sargasses aux Antilles.
Manon Dugré, on n'a pas encore donné des chiffres en matière de bilan carbone, mais c'est vrai que nos modèles alimentaires contribuent quand même fortement au réchauffement climatique.
Oui, on a vraiment une part de responsabilité de l'alimentation qui est considérable. On parle de 30% à l'échelle du globe. Le Haut Conseil pour le climat parle de 22% de l'empreinte carbone des Français. C'est plus fort que le logement. Et j'ai noté dans le dernier rapport du 8 Lancet, qui est vraiment un rapport scientifique de référence sur ce sujet de l'alimentation durable, que si nous arrêtions et si on arrivait à se défaire totalement de notre dépendance aux énergies fossiles, notre alimentation, avec le modèle actuel d'agro-industrie, ferait dépasser les températures mondiales au-delà de la limite des 1,5 degrés indiquée par les accords de Paris. Donc il y a là vraiment un sujet auquel on va devoir s'attaquer, mais j'y vois aussi un levier énorme, c'est-à-dire que si on arrive à effectuer un réel changement dans nos régimes alimentaires, on peut aussi imaginer qu'on aura un impact très fort sur ce dérèglement climatique.
Un régime alimentaire donc qui génère de la déforestation, là aussi on peut donner des chiffres. La production agricole représente 80% de la déforestation mondiale et 70% de perte de biodiversité terrestre, dont Nicolas Bricasse nous parlait à l'instant. Il y a peut-être d'autres points qu'on a oubliés dans ce tableau sombre quand même. Donc besoin de beaucoup d'eau aussi.
Oui, l'agriculture intensive en fait, ça utilise 70% de l'eau douce et comme le disait Nicolas, c'est surtout que c'est une source de pollution invisible et diffuse. Nicolas en a parlé avec l'utilisation des nitrates qui sont très solubles et qui, par lessivage, se retrouvent dans les nappes phréatiques et ça pollue vraiment l'eau, évidemment. Ça se retrouve donc dans les océans. On a des zones mortes, en fait, dans l'océan du fait de l'eutrophisation, donc avec des zones sans oxygène. Et tout ça est lié vraiment à ce modèle de l'agriculture intensive.
Et la question de l'exploitation animale, on n'en a pas encore parlé. On peut bien sûr poser le sujet, Nicolas Bricasse, hein, ça rentre aussi dans ses conséquences, ses impacts, ses effets sur la planète.
Oui, alors on a, vous savez, en Europe, dans les pays occidentalisés, on considère par rapport aux enjeux de santé qu'on est en très nette surconsommation de produits animaux. On en a besoin nutritionnellement, hein, ils apportent des éléments nutritifs indispensables. Mais aujourd'hui, on a considérablement industrialisé l'élevage. Vous savez qu'à l'échelle mondiale, la moitié des surfaces agricoles sont destinées à nourrir les animaux. Plus de 70% à l'échelle française. Ça veut dire qu'on a aussi une très grande marge de manœuvre. Mais donc, on a effectivement transformé notre rapport aux animaux comme un rapport, non pas à des animaux vivants, mais à des sources, on parle même de protéines. On mange des protéines animales. En fait, on mange des animaux, faut pas l'oublier. Et donc, c'est vrai qu'on a considérablement éloigné notre rapport aux animaux, oubliant même que ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité, ne sachant pas exactement comment ils sont produits, abattus. Et donc, on a là un enjeu considérable autour de la question des produits animaux.
Manon Dugré.
C'est vraiment lié à la manière dont on produit de manière intensive, qui a vraiment cet impact en termes de bien-être animal. En fait, ça impacte une forte concentration des animaux, une faible variabilité génétique et une limitation drastique des comportements naturels des animaux. Ce modèle-là, il se fait vraiment au détriment du bien-être, avec des impacts sur la santé. Et c'est vrai que le tableau est très sombre, puisque on a une mortalité accrue au sein des troupeaux. On voit des troubles respiratoires, des animaux qui subissent aussi des mutilations. Et tous ces problèmes de santé, en fait, on essaye de les compenser par un usage massif d'antibiotiques. Donc le tableau est quand même très sombre et il y a aussi un risque sanitaire global. L'IPBS indique que en simplifiant ainsi les écosystèmes...
L'IPBS, il faut rappeler, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.
Exactement, voilà, c'est vraiment l'équivalent. Ils indiquent qu'avec cette simplification des écosystèmes agricoles et cette forte concentration des animaux, on limite en fait cette barrière écologique entre la faune sauvage, les élevages et les humains. Et ça représente un risque sanitaire et ça augmente le risque de maladies infectieuses et de zoonoses.
Et nous pouvons ajouter que la domestication a eu des bienfaits, mais a quand même généré de la sélection et de la perte de diversité. Nicolas Bricasse.
Oui, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes, hein, on utilise... d'une part, dans les enjeux de biodiversité, on a effectivement la disparition d'un certain nombre d'espèces, disparition d'oiseaux, disparition d'insectes, disparition de mammifères. Et à l'intérieur d'une même espèce, une réduction considérable des variétés au sein de ces espèces. On utilise aujourd'hui un nombre restreint de variétés de pommes, de blé, de maïs par rapport à la diversité qu'on avait au départ. Ça peut poser un problème pour la production agricole parce que si on a une maladie qui arrive sur une variété particulière, en fait, souvent, on a réagi en trouvant des variétés qui, elles, étaient résistantes à cette maladie. Pourquoi on peut considérer que la biodiversité, elle nous est nécessaire au-delà de reconstruire un rapport aux vivants, aux autres, aux animaux, aux plantes, qui soit moins un rapport ni d'exploitation ni de protection, mais qui soit un rapport négocié.
Alors le phylloxéra, il faut rappeler, hein, c'était une maladie qui touchait les vignobles en France, qui était vraiment dramatique, hein, puisque les vignobles étaient ravagés, c'était dans les années...
C'était au début du XXe siècle, hein, voilà, et heureusement, on avait gardé, enfin en tout cas, des gens avaient gardé ces collections de vignobles, dont on s'est rendu compte que certains étaient résistants au phylloxéra, donc on a replanté le vignoble français à partir de ces variétés, sur lesquelles on a ensuite greffé les variétés qu'on utilisait pour faire du vin autrefois.
Et aujourd'hui, on renoue aussi avec d'anciennes variétés, plus résistantes au climat, mais qui avaient été totalement délaissées.
Absolument.
La question du système alimentaire pose aussi celle de la santé et des inégalités sociales. Ne pas oublier cela aussi dans ce tableau sombre.
On a parlé effectivement des impacts et de la responsabilité des systèmes alimentaires dans le dérèglement climatique, sur l'épuisement des ressources et la pression qu'elles portent sur les écosystèmes. Mais le tableau ne s'arrête pas là, effectivement, puisque on a une alimentation qui, même si les rendements agricoles ont permis de nourrir une population croissante, on peut dire qu'elle nourrit mal, malgré tout, aujourd'hui. Et ça, c'est lié à des déséquilibre structurel en fait dans nos régimes alimentaires, avec une alimentation qui est vraiment plutôt pauvre en fibres, en micronutriments essentiels, en fruits et en légumes, et qui est trop riche en sel, en graisses saturées, en sucre et aussi en produits ultra transformés, et donc trop riche en additifs. Et c'est vrai qu'on voit apparaître des nouveaux polluants alimentaires, des nitrites, des solvants, des plastiques alimentaires, dont on évalue assez mal encore l'impact sur notre santé aujourd'hui. En tout cas, ce régime qu'on observe et qui se répand un peu partout a de nombreuses conséquences et fait exploser en fait les maladies chroniques, donc c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète du type 2 ou encore certains cancers liés à l'alimentation. Et c'est le cas dans les pays avec un fort revenu, mais c'est aussi le cas dans des pays avec des revenus intermédiaires ou faibles où on va avoir à la fois des phénomènes de malnutrition et de carence nutritionnelle, mais à la fois une surconsommation d'aliments avec une faible qualité nutritionnelle.
Un coût social, Nicolas Bricasse ?
Depuis la crise de la Covid 2019, on a vu une augmentation considérable du nombre de personnes qui sont ce qu'on appelle en insécurité alimentaire, en fait, qui n'ont pas un revenu suffisant pour arriver à manger correctement. On estime cette population aujourd'hui à autour de 10 millions d'habitants en France. Et ça veut dire que c'est important d'avoir ça en tête, parce que si on commence à faire un discours en disant « il faut que vous mangez mieux, il faut que vous vous tourniez vers des produits sans pesticides, il faut que vous utilisiez moins de produits transformés, il faut que vous achetiez bio, etc. » Si on dit ça à des gens qui n'ont pas ni le pouvoir d'achat, ni la proximité géographique d'un magasin qui vend de la nourriture de qualité, vous allez culpabiliser des gens qui vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de nourrir correctement leurs enfants. L'effet pervers de ça, c'est qu'ils vont finir par rejeter le message. Donc en fait, il faut arrêter de matraquer les gens en leur disant comment mieux manger. En fait, les gens, ils essaient de manger au mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Ce qu'il faut, c'est changer ces moyens.
Changer le système alimentaire, les modèles, et puis les aider aussi, les personnes. Vous parliez de 10 millions en France, c'est énorme. Tout cela, ça rejoint la notion d'alimentation durable, hein, qui s'impose, mais qui devrait s'imposer à tous.
Oui, alors ça fait déjà longtemps que les scientifiques ont tiré les sonnettes d'alarme sur la non-généralisation à l'échelle planétaire de notre modèle industriel et la non-poursuite possible de ce modèle parce qu'il a chez nous déjà beaucoup de dégâts. Et c'est comme ça qu'a émergé cette idée d'alimentation dite durable. Elle fait l'objet de définitions par les Nations Unies. Et il y a, on peut dire, un consensus scientifique sur la nécessité de changer de modèle. Mais ce modèle, il a été installé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en accompagnant et les agriculteurs et les industries de la transformation et de la distribution, en les accompagnant de financement, d'assurance, d'intrants divers, hein, les semences, les produits phytosanitaires, les engrais, les emballages. On a formé les gens, on a informé les gens, on a construit des dispositifs de recherche. Donc on a tout un écosystème institutionnel d'organisations publiques et privées qui ont aidé ces acteurs de la chaîne alimentaire à adopter ce modèle industriel dans le but de réduire au plus bas le coût de notre alimentation pour les consommateurs.
Et donc avec les conséquences dont nous avons parlé, aujourd'hui il faut modifier complètement le système, ôter les verrous.
Avancer vers la construction dans la société, avec les mangeurs, avec les habitants, d'un nouveau modèle. Comme on a eu, on peut dire, après la Seconde Guerre mondiale, un espèce de contrat social. On va chercher à produire l'alimentation au moindre coût en surproduisant. Aujourd'hui, on voit les dégâts de ça, donc il nous faut construire un autre modèle. Et ça, c'est pas uniquement aux experts de le faire, c'est à toute la population de se remettre en discussion pour savoir comment on veut que soient nourries les générations futures, sachant qu'en plus, on est face à des bouleversements majeurs avec la numérisation du système, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec les progrès révolutionnaires de la génétique et des biotechnologies. Donc on va avoir des grands changements. Et en fait, la question maintenant, c'est se ressaisir de cette question pour redéfinir notre plaisir, notre rapport aux autres et notre rapport à la biosphère.
Il faut quand même mentionner et préciser, Nicolas Bricasse, que des institutions comme le CNRS, l'INRAE, le CIRA travaillent aujourd'hui pour accompagner et a aussi d'ores et déjà des solutions pour engager une révolution, un mouvement. Il ne faut pas l'oublier, hein, on ne part pas de rien là.
La recherche est effectivement maintenant engagée pour essayer d'accélérer une transition agroécologique. Mais elle le fait de façon assez différente de ce qu'elle a pu faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour industrialiser. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, c'est moins que la recherche va trouver des solutions pour la planète ou pour les agriculteurs, etc. C'est qu'en fait, il faut co-construire les solutions avec les gens qui vivent ces situations. On parlait tout à l'heure d'éleveurs. Tout l'élevage n'est pas industriel avec un mal-être des animaux. Les éleveurs sont des gens qui savent se relier aux animaux, sont attentifs. On le voit avec la crise aujourd'hui et l'abattage massif qui est fait et qui fait souffrir considérablement les éleveurs. Donc ça veut dire qu'il faut repartir de ces savoirs, savoir paysan, savoir d'agriculteur, savoir d'industriel, de transformateur, et co-construire avec eux des solutions dans un environnement et dans un futur qui est assez incertain. Donc c'est pas seulement trouver des nouvelles solutions, c'est de les trouver autrement.
Et malgré tout, au niveau des citoyens et de chacun, on peut déjà engager des modifications dans notre alimentation. Manon Dugré, qu'est-ce que nous devrions d'emblée faire évoluer au quotidien ?
Peut-être juste quelques pistes pour commencer, parce que le sujet est quand même
vaste.
Vaste.
Mais nous aurons tout le podcast pour justement le découvrir jusqu'au dernier épisode.
Mais c'est vrai que c'est important, je pense, d'essayer de prioriser un petit peu les combats et puis de garder en tête que c'est vraiment une responsabilité partagée et de pas faire peser tout ceci sur les épaules des consommateurs. Maintenant, je pense qu'un premier pilier qui paraît essentiel et qui permettrait d'avoir un impact considérable sur à la fois les impacts climatiques, l'impact sur les ressources, etc., c'est vraiment de rééquilibrer notre alimentation, qu'elle soit majoritairement composée d'aliments d'origine végétale plutôt que d'origine animale. Et là, il y a vraiment un shift à effectuer, notamment dans les pays occidentaux comme la France. Et il faut vraiment voir les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes comme des piliers absolus d'une alimentation durable. De fait, la production de produits végétaux, elle est vraiment moins émettrice de gaz à effet de serre et elle exerce aussi moins de pression sur les ressources. À l'inverse, il faut qu'on réduise notre consommation de produits animaux et notamment de viande rouge, qui est vraiment le produit avec le plus fort impact environnemental. Donc l'idée, c'est pas de la supprimer totalement, mais peut-être de se dire qu'on en consomme moins et mieux, de réduire la fréquence de consommation et aussi la taille des portions. Moi, je pense qu'on pourra donner quelques pistes dans la série, et puis aussi de mieux choisir en valorisant des pratiques agricoles qui soient plus respectueuses de l'environnement. On pourra parler, je pense, d'agroécologie, de biologie, mais aussi de pratiques qui respectent la saisonnalité, de favoriser des élevages extensifs. Il y a vraiment toutes sortes de réalités différentes dans les modes de production. Et c'est vraiment le mode de production qui est à la base de l'impact climatique de notre alimentation. C'est vraiment 60% qui est lié au mode de production, contre 6% par exemple pour le transport. Et ça, c'est un chiffre qui est intéressant, je pense, de le rappeler, puisqu'on parle beaucoup de locavorisme. Mais si on veut essayer de reprioriser le débat, je pense que les modes de production, c'est vraiment le premier levier à enclencher. Et puis, on l'a déjà dit, mais diversifier son alimentation, diversifier à la fois les catégories d'aliments qu'on consomme, ce qui permet d'avoir des meilleurs apports nutritionnels, mais aussi de diversifier les variétés et les espèces consommées. Il y a ce chiffre qui me marque personnellement beaucoup, c'est que sur les 6000 espèces cultivées dans le monde, 9 seulement fournissent près des 2/3 de la production alimentaire mondiale. Et sur les céréales, c'est encore pire. Le riz, le blé et le maïs apportent à elles seules environ la moitié de nos calories. Et en fait, on a complètement appauvri notre répertoire alimentaire en favorisant des monocultures. Quand on parle des céréales, c'est encore plus flagrant puisque le riz, le blé et le maïs représentent la moitié des calories ingérées. Donc on a vraiment mis tous nos œufs dans le même panier. Et ça, c'est très risqué, notamment dans un monde qui est de plus en plus incertain avec des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus violents et fréquents. Il va falloir qu'on diversifie et qu'on valorise des espèces et des variétés qui sont plus résistantes, plus robustes, notamment aux aléas climatiques.
Manger moins, mais mieux, hein, Nicolas Bricasse. Lutter aussi contre le gaspillage alimentaire, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais je crois qu'un tiers de nos assiettes finit à la poubelle, en moyenne.
C'est à peu près ce qu'estime la FAO en montrant que la planète est effectivement, depuis les années 80, en surproduction alimentaire. Faut pas oublier ça. On a parfois, au moment de la crise liée à la guerre en Ukraine, cru qu'on allait manquer de nourriture. On est en surproduction alimentaire, et alors dans les pays industrialisés, c'est très net. Mais je reviens sur les injonctions qu'on pourrait adresser aux consommateurs en disant « soyez responsables, essayez d'orienter votre alimentation pour qu'elle ait moins d'impact négatif sur l'environnement. »
Et aussi sur leur santé.
Je vais vous donner un exemple qui n'est pas alimentaire. Si vous voulez que les gens fassent plus de vélo dans la ville, vous pouvez faire une grande campagne de pub pour expliquer que le vélo, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. C'est pas ça qui va faire que les gens vont se mettre à faire du vélo. Il faut que vous aménagiez des pistes cyclables, des garages sécurisés. Ça veut dire qu'il faut changer l'environnement matériel qui rend le vélo la chose la plus facile à faire et la voiture la plus difficile. Et vous voyez bien qu'on est dans une société qui a fait absolument l'inverse. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que le vélo soit socialement désirable. Que les gens que vous voulez imiter, que les gens que vous considérez avoir des comportements vertueux, que vous aimeriez pouvoir suivre, fassent du vélo. Donc ça veut dire qu'il faut jouer sur l'environnement avant de jouer sur la responsabilité individuelle. Mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Il faut aussi que les électeurs interrogent les candidats sur la façon dont ils envisagent de faire évoluer l'offre alimentaire, ce qu'on appelle les paysages alimentaires. Ça peut commencer aussi dans co-construire, discuter de ce qu'on veut voir dans les cantines. Mais avec tout le monde, pas uniquement les plus éduqués et les plus sensibilisés, avec des gens tirés au hasard, dans les parents d'élèves et dans les élèves, et que avec les responsables des cantines, qu'il y ait une discussion sans savoir vers quel type d'alimentation on veut dans les cantines, parce que la cantine, c'est le façonnement d'une norme sociale. C'est là qu'on apprend que manger de la viande tous les jours et pas forcément la norme, et qu'il peut y avoir des repas qui se font, par exemple, sans viande rouge.
Une sorte de convention citoyenne pour l'agriculture, mais à chaque niveau.
À chaque niveau, ça peut être dans les cantines scolaires, ça peut être dans la restauration collective.
Dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., etc.
À Montpellier, par exemple, est en train de se construire une politique dite des paysages alimentaires, que la municipalité veut co-construire avec les habitants des quartiers. Quel est le type de commerce que vous souhaitez voir se développer à l'avenir dans votre quartier? Est-ce que vous voulez un marché? Est-ce que vous voulez des épiceries? Est-ce que ça sera accessible en termes de prix? Est-ce que vous voulez des jardins partagés, etc.? Et donc de retravailler non pas sur ce qui se passe dans la tête des gens, mais leur environnement alimentaire. Et ça, je trouve intéressant parce que on va vers l'idée de défendre une démocratie alimentaire, c'est-à-dire de mettre les habitants, les mangeurs, en capacité de discuter avec les politiques, avec les urbanistes, avec les responsables de cantines, de la restauration, etc., de la façon dont on veut voir évoluer notre alimentation.
Encore faut-il qu'au niveau justement des politiques, il y ait aussi cet élan.
Absolument, mais un politique, il a besoin de se faire élire. Et tout le monde est concerné par l'alimentation, parce que c'est ça qui fait son plaisir, qui fait sa relation aux autres et qui fait sa relation avec la biosphère. Donc on peut aussi être sensible, quand on est un politique, à ce que les gens attendent du point de vue de l'alimentation.
Et comme vous dites, hein, pour jouer sur l'environnement, il faut quand même aussi jouer sur nos habitudes. Et pour ça, il faut être informé. Donc donner à comprendre, informer, et ensuite faire en sorte que tout se rencontre. C'est-à-dire qu'on puisse jouer sur l'environnement si on est bien conscient des enjeux, des questions et des impacts.
D'où l'intérêt de ce podcast.
On espère. On espère. Manon Dugré.
Je rejoins ce que disait Nicolas sur cette distanciation des consommateurs avec ces décisions politiques sur lesquelles ils ont l'impression de ne pas avoir la main. Et je pense qu'il y a vraiment une proximité à retrouver à ce niveau-là. Il y a aussi une distanciation géographique qui s'est faite de fait avec ces aliments, une alimentation qui est mondialisée avec des aliments qui parcourent des kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Une distanciation cognitive où parfois on ne sait même plus comment on fabrique des aliments très simples, comme le pain par exemple, ou du fromage, voilà, ou des aliments fermentés. Une distanciation sensorielle avec des aliments ultra transformés qui sont de plus en plus standardisés en termes de goût, où on a perdu un petit peu justement ce goût du vivant. À quoi doit recevoir le goût d'une tomate cueillie à maturité par exemple? Et je pense qu'il y a un vrai besoin de retrouver cette proximité justement en impliquant les citoyens et en responsabilisant aussi les acteurs en amont de la filière, en retrouvant cette proximité aussi par le fait maison, où je pense qu'il y a un réel intérêt, je suis partie prenante, mais justement de se réintéresser aux aliments, aux matières premières, de pourquoi un tel va avoir plus de goût qu'un autre, et de les transformer par des préparations relativement simples. Je ne parle pas de grande cuisine, mais en tout cas de s'y intéresser et de se poser quelques questions sur le pourquoi du comment.
Dans ce mouvement, d'ailleurs, on voit l'envie du locavorisme, les circuits courts, le fait maison, l'agriculture urbaine, ça génère quand même dans les territoires un mouvement ou en tout cas une demande.
Oui, il y a absolument une recherche de retrouver des proximités sur toutes les dimensions qu'a expliqué Manon. Une petite parenthèse sur le fait maison. C'est très à la mode, cette histoire du fait maison. Il faut quand même qu'on se pose la question de qui le fait à la maison. Et c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de l'évolution des rapports de genre autour de l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation reste quelque chose de très genré. C'est quand même plutôt les femmes qui ont la charge mentale, au moins, de gérer la question alimentaire. Même si ça bouge, mais ça bouge quand même pas très vite. Et c'est intéressant de s'interroger sur, à l'avenir, comment on veut faire évoluer ces rapports de genre dans nos rapports à l'alimentation. Et je vois que déjà dans certains pays, par exemple, la cuisine elle est en train de disparaître, la cuisine domestique, et que les gens se mettent à acheter à leurs voisins des portions de plats que les voisins ont cuisinées en plus de leurs besoins familiaux, ou d'acheter dans des petits restaurants. Et on voit déjà, que ce soit en Amérique ou en Asie, la disparition de la cuisine domestique, c'est-à-dire la marchandisation de la dernière étape de la chaîne alimentaire qui restait domestique, qui était la cuisine. Donc ça veut dire que peut-être que demain, on va inventer des nouveaux rapports à notre cuisine, qui va être le recours à des professionnels, progressivement, qui vont marchandiser leur vente de plats. Et de ce point de vue, les outils numériques ont été une aide considérable pour populariser la capacité de ménage, alors c'est souvent dans le secteur très informel, de proposer des portions de plats à leurs voisins. Et les voisins disent, en fait, c'est très bien cuisiné, c'est très bon, je sais plus le faire et c'est pas cher.
Mais ne plus savoir le faire, c'est quand même dommage, non?
Ça pose cette question, qu'est-ce que notre société veut? Est-ce que tout le monde veut savoir cultiver, élever, transformer? Oui, il y a une spécialisation qui s'est faite historiquement. Peut-être c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être c'est pas absolument nécessaire que tout le monde sache faire tout. Mais ça, c'est vraiment typiquement une question à débattre en société.
Et une évolution, mais à considérer, hein, comme vous le disiez, quand même dans une démocratie alimentaire. Avant de nous quitter pour cette première partie d'émission, la question rituelle du podcast. Quel plat ou aliment préconisez-vous, alors soit pour la planète ou soit parce que c'est juste votre péché mignon, Manon Dugré?
Je dirais un bouillon de poulet, parce que c'est quelque chose, une habitude qu'on a un petit peu perdue, et c'est un souvenir d'enfance, puisque c'est vrai que ma grand-mère cuisinait systématiquement, enfin c'était présent à tous les repas en fait, en entrée. Et je trouve ça assez génial, cette possibilité d'avoir un aliment qui a un goût effectivement très riche de poulet sans contenir de viande. C'est un plat qui peut être réconfortant en hiver et qu'on peut agrémenter d'une céréale résistante, par exemple, aux épisodes de sécheresse, comme l'épeautre, qui est très durable, et puis avec quelques cubes de céleri rave qu'on aura fait cuire dans le bouillon. Et voilà, on a quelque chose d'assez réconfortant qui est parfait pour les soirs en ce moment.
Nicolas Bricasse, de votre côté?
Moi, j'ai un légume de prédilection, c'est l'aubergine.
Ah.
Mon père était grec, j'ai été nourri dans mon enfance au goût du moussaka. Il y a d'autres façons de cuisiner l'aubergine, mais les aubergines au four, avec un peu de tomate, avec un peu de béchamel s'il faut, c'est une tuerie.
Eh bien, merci à tous les deux, à déguster aussi vos livres quand même, hein, Nicolas Bricasse, l'ouvrage collectif Une écologie de l'alimentation paru chez Quae. Je précise aussi que vous avez monté un master environnement et politique pour une alimentation durable et une formation courte aussi proposée. Voilà, on pourra retrouver toutes les informations sur le site. Manon Dugré, Je mange pour le futur, livre coécrit avec Aurélie Zunino et édité chez Ulmer. Les références bien sûr sont à votre disposition sur le site de l'émission De cause à effet, franceculture.fr. Allez, une dernière question mais courte. Le pain, c'est la base?
Chez nous, oui.
La base est un symbole de notre choix de société.
Eh bien, vous restez avec nous parce que dans un instant, c'est la suite de notre série De l'alimentation à la planète, Manger pour le futur, avec Roland Feuillas, l'homme qui fait vivre le pain. Et en guise de transition, Manon Dugré, nous allons écouter votre choix musical. Vous avez choisi Supernature.
Supernature de Céron, qui est un morceau disco qui, je trouve, met de très bonne humeur, mais qui traite aussi d'un sujet très sérieux, qui questionne justement cette rupture entre l'humain, la technologie et le vivant.